respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Comprendre ce qui va se passer en cas de changement climatique,
fait de moi une observatrice du genre humain.
Et maintenant, à voir les cratères à la surface des astéroïdes.
Je travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Explorateur, ce mot qui nous rappelle les grands navigateurs ou les premières missions dans l'espace. Mais qu'explorons-nous encore aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à la recherche d'acteurs de science. Je suis Marie-Charlotte et aujourd'hui, je vous emmène au cœur du CEREJ, laboratoire de géosciences, à la rencontre d'une exploratrice des temps modernes. Elle s'appelle Lucila Benedetti et, par chance, je l'ai trouvée dans son bureau. Bonjour Lucila.
Alors, ben bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Donc oui, je travaille au CNRS et je travaille en particulier sur les séismes. Essayer de mieux comprendre leur fonctionnement, est-ce qu'ils se répètent régulièrement ou pas, et en particulier sur la Méditerranée.
Alors j'imagine que le travail de chercheur vous amène à endosser pas mal de rôles différents finalement, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi votre travail fait de vous une exploratrice aujourd'hui ?
Oui, alors exploratrice, c'est un très grand mot. Quand on pense explorateur, on pense à des gens qui ont bravé les mers pour découvrir des nouveaux lieux. Donc nous, on fait pas exactement ça, mais on explore en fait notre terrain d'étude. C'est-à-dire qu'on se rend, par exemple, en Italie, suite aux séismes qui ont eu lieu en 2016, ou on va se rendre même en Asie ou dans d'autres endroits où, effectivement, il y a des séismes qui transforment le paysage, en fait. Au moment où un séisme se produit, il affecte vraiment le paysage, si c'est un gros séisme, de façon visible. Par exemple, en Italie, il y a presque 2 mètres qui sont sortis de terre sur une longueur qui fait presque 15 km de long. Donc nous, on va explorer ces endroits, on va les observer, et c'est nos observations de base, effectivement. C'est ce qui nous permet ensuite de comprendre comment ça fonctionne. Donc on mesure, on observe, et puis voilà. Voilà en quoi, je dirais, notre métier est de l'exploration. On ne sait pas ce qu'on va découvrir quand on arrive. On utilise des images satellites pour essayer de se rendre compte un peu avant d'arriver, bien contraindre où on va aller et ce qu'on va faire sur place pour gagner du temps. Mais c'est en ça que c'est de l'exploration, puisqu'on découvre.
Et alors, pour nous préciser un petit peu votre travail, est-ce que vous pourriez me décrire une analyse type que vous faites, ou une journée type, ou simplement un projet sur lequel vous avez travaillé récemment et qui vous tient à cœur ?
Alors, ma journée type va être très différente si je suis sur le terrain, donc en phase exploratoire, on va dire, ou si je suis au laboratoire en rentrant du terrain. Donc, quand on est sur le terrain, la chose qui est exceptionnel, je dirais, c'est que on fait une seule chose de toute la journée. On travaille sur un seul sujet, et ça, c'est extraordinaire par rapport à nos journées au labo où on va passer d'un sujet à un autre. Et donc sur le terrain, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des données quantitatives, mesurables, de ce qu'on observe. Et donc c'est toute la difficulté. Donc on met en place des outils comme des appareils photo, mais qui nous permettent de métrer en fait ce qu'on observe, ou juste parfois ça peut aller à un décamètre. Là, on utilise beaucoup ce qui s'appelle la photogrammétrie, qui nous permet de recréer en 3 dimensions ce qu'on voit à l'échelle complètement géoréférencée, pour permettre effectivement après de mesurer les effets du séisme sur le paysage. Donc une journée de terrain, ça va être on se lève très tôt, on termine en général très tard, on porte beaucoup de matériel, on va en général dans des endroits montagneux, et c'est magnifique, et on se dit à chaque fois qu'on a énormément de chance d'être payé pour faire ça, et même si c'est assez fatigant, et on est très content quand on rentre au labo. Une journée type au labo, ça va varier entre des rédactions de projets pour obtenir de l'argent, pour pouvoir retourner sur le terrain, ou acheter justement des appareils de pointe qui vont nous permettre de mesurer les choses très précisément. Beaucoup de rapports avec les étudiants, parce que je travaille beaucoup avec des étudiants en thèse ou en post-doctorat. Ça, c'est très, très enrichissant. On analyse ensemble, on interprète ce qu'on voit, on rédige des papiers, des choses comme ça. Donc, beaucoup beaucoup de discussions et malheureusement beaucoup de réunions qui parfois ne sont pas toujours très efficaces et qui peuvent être très très longues pour résoudre une ou deux questions. Mais voilà, ça fait partie du jeu où effectivement on a besoin d'interagir avec les différentes personnes qui constituent un laboratoire de recherche. Ça passe par des réunions. Donc voilà.
Vous m'avez dit que vous observez les séismes, donc des séismes passés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous les datez? Comment est-ce que vous arrivez à enregistrer justement les traces de séismes passés?
Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, avant qu'on ait ce séisme en 2016, on faisait des hypothèses sur ce qu'on voyait dans les paysages et qu'on associait donc à des séismes passés. Et il se trouve qu'avec le séisme de 2016, on a vérifié qu'effectivement, les hypothèses qu'on faisait sont effectivement exactes, c'est-à-dire que ce qui est sorti de terre, c'est bien ce que nous, on associait à des séismes du passé. Et donc, dater ceux qui sont plus lointains, hein, donc plusieurs milliers d'années, où on va presque jusqu'à 20 000 ans parfois, on utilise de la géochimie isotopique, c'est-à-dire qu'on utilise des éléments chimiques qui ne sont produits que quand une roche est exposée à la surface de la Terre. C'est comme le bronzage, c'est assez extraordinaire pour tout ce qui est quantification des processus superficiels. Ça fait à peu près une trentaine d'années en fait que des gens ont commencé à se dire que ce type d'outil pouvait effectivement permettre de dater l'exposition de roches à la surface. Et donc on fait ça. Et pour ça, on a besoin d'un outil qui s'appelle un accélérateur spectromètre de masse. On en a un ici au CEREJ qui est il y en a très peu dans le monde, hein. Il y en a une dizaine, on va dire, qui sont capables de faire ce qu'on fait nous ici. Donc voilà, donc on allie effectivement terrain avec outils de pointe comme cet accélérateur qui nous permet de remonter dans le temps des séismes.
Effectivement, il n'y a pas que le côté exploré dans votre métier, mais est-ce que c'est le côté exploration qui vous a mené à exercer le métier que vous faites aujourd'hui ? Comment est-ce que vous êtes arrivé là ?
Alors complètement, c'est exactement le côté exploration qui m'a mené là, c'est-à-dire que depuis très jeune, je dirais, j'avais envie de voyager en fait, j'avais envie de découvrir des nouvelles contrées. J'étais effectivement bercée par des récits d'explorateurs, peu de récits d'exploratrices malheureusement, quelques-unes, mais surtout des récits d'explorateurs. Et voilà, et mon père était quelqu'un qui aimait énormément explorer aussi, qui partait tout le temps en voyage, qui revenait avec des valises pleines de choses mystérieuses. Et ce côté-là m'attirait énormément. J'avais très envie de pouvoir allier mon métier avec effectivement la découverte d'endroits nouveaux, l'interaction avec des gens d'une langue et d'une culture différentes, mais pas sur des aspects touristiques, plus effectivement sur un aspect lié à un travail. Et quand j'ai eu mon premier cours de tectonique des plaques à l'université en deuxième année, ça a été exceptionnel. La découverte vraiment pour moi que des séismes pouvaient transformer comme ça la surface de la Terre, ça m'a énormément plu et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs et des enseignants qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont donné envie de faire ça et qui sont eux-mêmes des très grands explorateurs et dont j'essaye de suivre la trace, voilà.
Et par contre, j'imagine que le travail d'exploration, c'est aussi un petit peu aller vers l'inconnu. On ne tombe pas toujours sur ce à quoi on s'attendait. Est-ce que vous pouvez me raconter une mission, un projet sur lequel vous êtes en difficulté, qui vous a mené à une question à laquelle vous n'avez pas encore apporté de réponse ?
Alors oui, donc déjà l'inconnu fait partie du métier de la recherche, c'est vraiment c'est ce qui nous motive, hein, c'est-à-dire qu'on se dit toujours ça va se passer comme ça, puis on va trouver ça, et puis ça voudra dire ça, et puis en fait ça se passe jamais comme ça, ça se passe jamais comme on attend, et c'est ça qui fait le piment, hein, je dirais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas se décourager quand on n'obtient pas ce qu'on s'attendait à obtenir, parce que c'est justement là qu'on va faire soit une grande découverte, hein, soit vraiment observer des choses qui effectivement auxquelles on s'attendait pas et qui sont donc nouvelles. Par exemple, suite aux séismes qui ont eu lieu en Italie en 2016, il y a eu deux séismes, un le 24 août et un le 30 octobre, donc quelques mois après. Et il se trouve que ces deux séismes ont rompu la surface terrestre exactement aux deux mêmes endroits. avec évidemment des ampleurs qui sont différentes en fonction de la taille du séisme. Donc celui du 24 août était peu plus petit que celui du 30 octobre. Donc on a 20 cm pour celui du 24 août qui sont sortis de terre et 2 mètres pour celui du 30 octobre. Mais on s'interroge encore sur pourquoi c'est au même endroit, donc sur la même faille, que ces deux séismes ont exprimé le déplacement en surface. On sait bien que ce n'est pas les mêmes sources, mais on ne sait pas encore pourquoi c'est à cet endroit-là que, ben voilà, qu'on a eu cette rupture en surface exactement au même endroit, maximum à ces deux mêmes endroits. Donc ça, c'est une question qu'on se pose et sur laquelle on cherche activement.
J'espère que vous trouverez la réponse. Alors, pour finir, est-ce que vous pourriez me qualifier votre métier en un seul mot ?
Qualifier mon métier en un seul mot ? C'est dur comme question. Paléosismologue, dans le sens où ma fonction première, c'est de chercher les séismes du passé pour mieux comprendre les futurs, hein, les séismes futurs. Après, je fais beaucoup d'autres choses, en fait. Hein. C'est des métiers où, effectivement, comme on essaye de mettre au point des méthodes, on est amené à travailler sur plein d'autres choses. Je travaille aussi sur les déchets radioactifs, par exemple. Donc, voilà, on fait vraiment le grand écart, mais toujours avec la même approche quantitative. Je vais dire paléosismologue, voilà, pour répondre à votre question.
Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié cette découverte des coulisses du Cérège, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.